Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Art Interview sur Art District Radio, une émission qui rencontre à chaque fois les artistes et les acteurs du monde culturel. Ils viennent nous parler de leur parcours, de leurs actions, de leurs passions aussi. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Roth-Bettoni, journaliste et historien du cinéma, à l'occasion de la grande et belle exposition qui s'appelle « Chant d'amour, 100 ans de cinéma arc-en-ciel » et qui vient d'ouvrir ses portes au cœur de Paris, à l'Hôtel de Ville. Bonjour Didier.
Bonjour.
Ravi donc de te retrouver. On va peut-être se tutoyer.
Oui, je pense
que ça ne te dérange pas.
C'est plus logique.
Voilà, parce qu'en fait, on se connaît assez bien. Tu as fait quelques chroniques sur Art District, des chroniques littéraires, d'ailleurs de la littérature du coup gay. Hein, tu nous as présenté.
Pas toujours.
Mais c'était voilà un bel aperçu de ce qui peut se faire aussi en littérature sur les sujets donc de la communauté gay et homosexuelle. Et donc là, tu es maintenant co-commissaire de cette exposition. Est-ce qu'on peut dire que cette exposition est finalement assez inédite ?
Alors on peut le dire complètement. C'est la première fois au monde qu'une exposition de cette ampleur, hein, puisqu'il y a quand même ces 650 mètres carrés, il y a environ 600 films qui sont évoqués dans l'exposition de différentes manières, par des photos, des extraits, des affiches, des documents, voilà, donc des costumes. Et donc oui, c'est la première fois au monde qu'on s'intéresse à 100 ans d'histoire des représentations de l'homosexualité sous toutes ses formes et des transidentités au cinéma.
Alors, il faut dire que effectivement, tu étais tout à fait légitime hein, pour être un des commissaires de cette exposition, puisque déjà, à travers plusieurs articles et aussi des ouvrages, tu es engagé depuis de nombreuses années pour la défense et la visibilité de la communauté LGBT. Tu es un passionné de cinéma et tu es plus particulièrement intéressé, du coup, par tout ce qui est image, représentation de l'homosexualité au cinéma. Donc, évidemment, mais aussi dans la société, puisqu'on dit souvent que le cinéma est aussi un reflet, d'une certaine manière, de la société. Alors, tu es l'auteur notamment d'un ouvrage de référence qui s'appelle « L'homosexualité au cinéma » et qui est paru en 2007 aux éditions La Musardine. Et puis récemment, tu as écrit d'autres ouvrages hein, aussi, toujours sur les mêmes thèmes. Et récemment, tu as aussi produit sur France Culture une série documentaire qui s'appelle « Quand la création rencontre le sida ». Donc voilà, de nombreuses années, beaucoup de recherches à ton actif. Quelle est la pierre à l'édifice que tu as apportée justement pour la construction de cette exposition ?
Oui, effectivement, c'est important de dire que c'est une exposition collective.
Enfin, voilà, il y a cinq commissaires.
Cinq, hein,
donc j'imagine que chacun avait un regard un peu différent.
Oui, on était extrêmement complémentaires. C'était donc Alain Bureau, qui est le commissaire général qui a réuni cette équipe. Moi, je pense que mon expertise spécifique, ça a été vraiment ce regard très historique sur cette histoire, sur ces 100 ans d'images de nature très variée, très diverse, et cette volonté peut-être de, non pas d'être exhaustif, mais au moins d'essayer de couvrir tous les champs de ces images, c'est-à-dire à la fois de partir d'avoir à la fois des films extrêmement populaires, des comédies très populaires comme La Cage aux Folles, et avoir aussi des films plus militants, plus secrets, d'avoir le cinéma pornographique, pornographique, en tout cas érotique, d'avoir des aspects extrêmement différents, extrêmement différenciés, et de couvrir tous les champs de ces représentations. Moi, ça a été vraiment mon apport principal, et puis toujours en essayant de veiller à ce que les différentes parties de cette communauté LGBTQI soient représentées, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des films gays, des films lesbiens, des films trans ou évoquant les personnes trans, etc., et les personnes bi, voilà, etc., etc. Donc on a vraiment eu collectivement ce souci d'essayer de représenter le plus largement possible tout ça, et voilà, je crois que c'était ça un peu mon apport à partir de mon travail, effectivement, comme tu disais, depuis pas mal d'années sur ces questions.
Donc il y a une collaboration d'ailleurs avec la Cinémathèque française. C'était une volonté de la mairie de Paris. cette exposition. D'où vient l'initiative, en fait ?
Oui, l'initiative, c'est la mairie de Paris qui souhaitait faire un événement, une exposition dans cette salle de Saint-Jean de l'Hôtel de Ville, liée à la communauté LGBTQI, à l'occasion des 50 ans des émeutes de Stonewall, qui, aux États-Unis, à New York, en 1969, ont marqué l'émergence, enfin en tout cas la naissance du mouvement militant homosexuel moderne. Donc voilà, on fête cette année ses 50 ans. Donc il y avait cette volonté de la mairie de le signaler très fortement au cœur de la ville. Et il se trouve que par une sorte de hasard de calendrier, ce cinquantenaire correspond également au centenaire d'un film qui s'appelle Autre que les autres, un film allemand de 1919, qui est le premier film qu'on peut considérer comme le premier film, non pas sur l'homosexualité, mais le premier film à prendre la défense des droits des homosexuels, où que ce soit dans le monde. Donc cette concordance des 50 ans et des 100 ans a fait que cette exposition s'est axée sur le cinéma.
Mais est-ce que tu penses qu'une telle exposition aurait pu avoir lieu il y a 10 ou 20 ans au plein cœur de Paris ?
Non, je pense que ça aurait été difficile. Je pense que ça aurait été très difficile, oui. Ou peut-être même inenvisageable. Je crois même que personne n'y aurait pensé ou ne l'aurait envisagé. Parce que c'est une exposition de grande ampleur. Enfin, je crois que tu l'as visitée. Tu peux témoigner qu'il y a une richesse. Et surtout, je ne suis pas sûr qu'il y ait pu avoir cette volonté peut-être politique aussi d'inscrire vraiment dans la ville de façon très... très symbolique. Enfin, ce que je trouve très beau, c'est que cette exposition, non seulement elle est au cœur de l'Hôtel de Ville, qui est lui-même au cœur de Paris, et au cœur de l'été. C'est-à-dire que c'est une exposition, puisqu'elle va durer jusqu'à fin septembre, qui va s'adresser à des publics extrêmement larges. Elle est gratuite.
Elle est gratuite, voilà, c'est ce que j'allais dire, ça c'est important.
Oui, oui, donc ouais. Ça permet de revenir plusieurs fois si on veut, parce qu'il y a quand même...
Elle dure tout l'été.
Elle dure tout l'été, et donc ça veut dire que des touristes, des gens qui sont à Paris pour une journée ou quelques jours, les habitants de Paris évidemment, les membres de la communauté LGBT, QI évidemment, les cinéphiles, je crois que tout le monde peut y trouver son compte.
Donc, oui, c'est aussi une histoire du cinéma.
Tout à fait.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement, effectivement, cet aspect de montrer effectivement l'évolution de la représentation des gays, lesbiennes, trans et autres intersexes maintenant, puisqu'on dit ça comme ça. C'est aussi une histoire du cinéma et de comment le cinéma, finalement, œuvre aussi pour la défense des droits.
Oui, oui. Alors, œuvre pour la défense des droits quelquefois, ou quelquefois sert aussi d'oppression, enfin de machine à opprimer, ou en tout
bien
cas
sûr,
à reproduire.
Bien sûr, il y a les deux aspects. Hein,
voilà,
y a
les
aussi...
deux aspects sont liés, existent, coexistent plutôt. Et quand tu dis effectivement que c'est une histoire du cinéma, je crois que c'est une histoire du cinéma aussi, parce qu'on y trouve des œuvres de très grands cinémas. Très grands cinéastes.
Des très, très grands réalisateurs,
voilà,
bien sûr.
Visconti, Fassbinder, Pasolini, Cocteau, Patrice Chéreau, j'en oublie plein, enfin des contemporains.
Pedro Almodovar,
évidemment.
Des femmes aussi.
Chantal Akerman, Céline Sciamma, réalisatrice d'aujourd'hui, qui était encore à Cannes cette année. Voilà, il y a vraiment des très grands... Xavier Dolan, enfin, des très grands noms d'hier et d'aujourd'hui qui se retrouvent dans cette exposition. Des extraits de très grands films. Moi, je cite souvent à Venise, parce que pour moi c'est un des plus beaux films du monde, toutes thématiques confondues, et on en a un extrait dans l'exposition, plus une affiche, plus pas mal de choses. Donc oui, c'est aussi une histoire du cinéma par ce prisme-là, quoi, évidemment.
Alors c'est une grande plongée dans l'histoire du cinéma, puisque 1919 c'était quand même aussi les débuts du cinéma. Donc on replonge, on parcourt, puisque c'est assez chronologique, c'est assez didactique, c'est très bien fait, je tiens à le dire, parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît mal le sujet, voilà, on a vraiment des repères de dates, on a beaucoup d'extraits, on peut vraiment passer des heures finalement dans l'exposition.
Oui, je crois qu'il y a 1h40 d'extraits de films, 95 extraits différents.
Voilà, il y a de quoi faire.
Plus 1h30 de court-métrage en entier. Donc voilà, rien que si on s'arrête juste devant la vingtaine d'écrans qu'on propose, il y a déjà 3 heures à y passer si on veut.
Alors toi, en tant qu'historien du cinéma, je voulais te poser cette question. Est-ce que finalement, dans tes recherches, et peut-être qu'on peut ensuite le voir dans l'exposition, est-ce que tu penses que le cinéma en tant qu'art a eu parfois un coup d'avance, j'allais dire, sur la société et a permis finalement avec une audace artistique d'ensuite d'engager des mouvements sociétaux.
Oui, bien sûr.
Est-ce que ça a été un déclencheur par moment?
Je vais citer 3-4 exemples, on va voir le temps que tu me laisses. Le premier exemple, c'est ce premier film, 1919, autre que les autres. Il se trouve qu'en 1919, c'est donc tout de suite dans l'après-guerre, l'Allemagne est sous le régime de la République de Weimar, et donc beaucoup de choses y sont possibles. Et il se trouve quand même que cette nouvelle République qui vient de naître avec la chute de l'Empire prussien à la fin de la Première Guerre mondiale, vit toujours sous beaucoup de lois héritées du régime impérial. Et notamment, dans le Code pénal, un article qui s'appelle le paragraphe 175, qui est un article qui criminalise l'homosexualité et qui donc fait que les homosexuels sont l'objet de menaces de maîtres chanteurs, parce que s'ils sont dénoncés, ils sont envoyés en prison. Donc ce film-là, est produit pour dénoncer l'existence de ce paragraphe et pour appeler à son abrogation. Évidemment, le film n'aura pas, malheureusement, cet effet-là, puisque le paragraphe 175 va perdurer très longtemps et notamment va être réactivé de façon encore plus forte par les nazis qui vont s'en servir pour déporter les homosexuels pendant, même dès avant la Seconde Guerre mondiale et notamment pendant. Donc il y a cet élément-là. Il y a 40 ans plus tard, en 1960, en Grande-Bretagne, un film qui s'appelle La Victime, qui est produit là aussi, à peu près dans le même cadre. La Grande-Bretagne vit sous les lois de la reine Victoria, qui condamnait là aussi, qui criminalisait les homosexuels, qui là aussi était victime de chantage. Et là aussi, un film va dénoncer cette situation, qui est porté par un acteur très populaire à l'époque, qui s'appelait Dirk Bogarde, qui produit ce film, qui s'investit beaucoup dans ce film, qui joue dans ce film. Le film a un énorme succès et provoque des débats à la Chambre des Lords, puis à la Chambre des Communes, qui vont aboutir 5 ans plus tard à l'abrogation de la criminalisation de l'homosexualité en Grande-Bretagne. Je citerai en Allemagne, en 1971, un film d'un réalisateur très engagé pour la cause LGBT qui s'appelle Rosa von Frauenheim, qui produit un film qui s'appelle, déjà rien que le titre est un manifeste politique, ce n'est pas l'homosexuel qui est pervers, mais la société dans laquelle il vit. Et ce film va créer, dans tous les films où le réalisateur va l'accompagner pour des débats, immédiatement après ces débats, des groupes militants LGBTQI vont se mettre en place. Et puis je finirai par l'Espagne de la Movida, l'Espagne de l'après-franquisme, où le cinéma de Pedro Almodovar va avoir un retentissement énorme et va faire, je crois, bouger les mentalités de façon incroyablement libre en Espagne, en montrant une palette de sexualité toute mise sans hiérarchie entre elles, de sexualité et de mode de vie, qui va permettre l'adoption relativement sereine du mariage homosexuel en 2004. Très très en avance sur la France, par exemple.
Alors, histoire de plonger encore un tout petit peu plus dans ce cinéma, on va écouter un peu de musique, Didier, avec un morceau que tu as choisi, extrait du film Victor Victoria, et la chanson s'appelle Jazz Hot. On l'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. About 20 years ago, way down in New Orleans, a group of fellas found a new kind of music, and they decided to call it jazz. No other sound has what this music has. Before they knew it, it was whizzing round the world. The world was ready for a blue kind of music, and now they play it from Steamboat Springs to La Paz. Jazz hot, maybe, and don't ever let it end. I tell your friend it's really something to hear. I can't sit still when there's that rhythm near me. Maybe what's holding my soul together. Don't
winner.
Avec mon invité aujourd'hui qui est Didier Roth-Bettoni, co-commissaire de l'exposition Chant d'amour, 100 ans de cinéma arc-en-ciel, qui a lieu jusqu'à fin septembre, jusqu'au 28 septembre à l'Hôtel de Ville de Paris. Didier Roth-Bettoni, on vient d'écouter un titre qui s'appelle Jazz Hot. Alors ça tombe bien parce qu'on est sur Art District Radio et qu'on est ici très passionné de jazz. Et donc c'est une chanson issue du film Victor Victoria. Un petit mot sur ce choix musical.
D'abord, c'est un film que j'adore. C'est un des films, quand j'ai un coup de blues ou quelque chose, voilà, c'est le film que je regarde, un des films que je regarde systématiquement, qui est donc un film de Blake Edwards de 1982, qui est l'histoire d'une chanteuse de cabaret qui n'a pas de succès et qui, pour devenir une star, se travestit en homme, et révèle régulièrement qu'elle est une femme. Donc en fait, c'est une femme qui se travestit en homme, qui se travestit en femme. Donc c'est une espèce de boucle assez sidérante.
C'est un cercle vertueux.
Très vertueux. Un film extrêmement drôle. C'est d'une comédie musicale avec Julie Andrews qui chante la chanson qu'on vient d'entendre et vraiment que j'adore absolument. Et donc, évidemment, on évoque le film par un extrait du film dans l'exposition.
Oui, il faut aussi préciser, puisque tu parlais de Julie Andrews, qu'effectivement, ce cinéma a aussi permis ce cinéma gay a aussi permis de mettre en lumière des icônes aussi, des acteurs, des actrices. L'affiche justement de l'exposition est exceptionnelle, je trouve.
Alors c'est une affiche de Divine, qui était donc un acteur travesti qui a fait tous les films d'un réalisateur underground, mais presque devenu culte, qui s'appelle John Waters dans les années 70-80. Et Divine est une espèce d'égérie qu'on a voulu mettre en avant 31 ans après sa mort.
Alors, tu parlais aussi de comédie, de burlesque, de drôlerie, puisque c'est aussi, bon, on pense au film culte que tout le monde a vu qui s'appelle La Cage aux Folles, évidemment, qui est un peu l'archétype, on va dire, de ce genre de comédie sur l'homosexualité. C'est d'ailleurs à travers le prisme de la comédie, finalement, que le grand public connaît mieux tous ces thèmes liés à l'homosexualité, mais des comédies qui ont parfois engendrer des caricatures qui n'ont pas forcément aidé la cause LGBT.
Oui,
c'est ce qu'aborde aussi l'exposition.
Oui, tout à fait. Évidemment, je signalais tout à l'heure des grands cinéastes, des grands films ou des films militants, mais évidemment, il n'était pas question de passer sous silence que le fait que les films que les gens qui n'ont jamais vu de films sur l'homosexualité ont vu. Ce sont des comédies, voilà, La Cage aux Folles, Victor Victoria, Madame Doubtfire, tous ces films qui jouent autour, Gazon Maudit, tous ces films qui jouent autour de la comédie, de la caricature, du stéréotype, évidemment, sont les films qui ont été les plus vus. Et donc, évidemment, on avait envie de montrer que ça existe et d'expliquer pourquoi c'était important que ces films existent. Parce que moi, je n'ai pas du tout un regard négatif sur ces films. Alors, il y en a certains qui sont très mauvais, et certains qui ne font que répéter des stéréotypes de façon mécanique, enfin, sans aucune... Mais une bonne comédie, elle part toujours du stéréotype, elle part toujours de la caricature. Et puis, ce qui est intéressant, c'est comment elle arrive, à partir de cet élément-là, à faire évoluer le regard des spectateurs sur autre chose. Et même un film comme La Cage aux Folles, qui est vraiment une sorte de parangon de la comédie avec un personnage plus que caricatural, le personnage de Zaza Napoli que joue Michel Serrault. Pour autant, derrière cette apparence-là, ce kitsch-là, cette emphase comique-là, se jouent des choses tout à fait incroyable quand même. On est quand même face à deux choses qu'on n'avait jamais vues à l'écran. Un couple qui vit ensemble, qui est amoureux depuis 30 ans et qui ne peut pas vivre l'un sans l'autre, un couple d'hommes, et un couple qui a élevé un enfant. Donc, on arrive par le biais, et puis surtout, peut-être encore plus que ça, même si Zaza Napoli est un personnage extrêmement drôle parce qu'elle a une personnalité plus qu'extravagante, c'est aussi un personnage dont on ne se moque jamais, c'est-à-dire qu'on installe sa folie au centre du film, et puis elle vit sa vie sans que personne ne la critique jamais. Et les films, les personnages qui sont moqués véritablement dans le film, qui sont ridicules, ce sont tous ceux autour, les conservateurs, les bigots, tous ceux qui essaient d'empêcher Zaza de vivre sa vie. Et je trouve que c'est une des approches intéressantes et qu'il y a beaucoup de comédies qui réussissent à faire ça. Et d'ailleurs, je tiens quand même à préciser que la comédie, elle a aussi cette vertu-là. Dans tous les pays du monde, je ne connais quasiment pas d'exemple inverse, la première manière d'aborder l'homosexualité, c'est toujours la comédie.
Oui, c'était peut-être aussi une manière dédramatisée.
Exactement.
Qui permettait finalement de mettre ce sujet sur la place publique de manière trop sérieuse.
Ça ne heurte personne. Et donc, la comédie est toujours le premier prisme. Quelquefois, c'est très déroutant. Et quelquefois, pour les spectateurs homosexuels qui voient des représentations d'eux-mêmes caricaturales dans des pays ou à des époques où il n'y a pas d'autres images, ça peut être très blessant. Mais il n'empêche que une fois que ce premier pas-là est franchi, il y en a d'autres qui vont suivre. Et que les autres, ils sont souvent beaucoup plus constructifs, intéressants, riches, divers.
Alors justement, en 100 ans, alors c'est une question qui est peut-être terriblement vaste pour la réponse qui va suivre, mais on va essayer de synthétiser. Est-ce que toi, en tant qu'historien du cinéma et donc observateur des images, justement, comment a évolué de manière rapide, dans la réponse, si possible, comment a évolué finalement l'image? On parlait de la comédie, de cette caricature, ça a été une des images véhiculées, mais est-ce par rapport aux années 20 et à aujourd'hui, quelle a été l'évolution finalement de cette image, de cette représentation de l'homosexualité? On a fait des progrès.
Oui, on a fait des progrès, mais c'est une évolution comme beaucoup de choses dans l'histoire. Et l'histoire des arts ne fait pas exception, où les évolutions ne sont pas linéaires. C'est-à-dire qu'il y a des avancées, des reculs, selon les époques, selon les pays, parce qu'on a essayé vraiment de faire une exposition mondiale.
Alors il y a effectivement la France, il y a Paris, d'ailleurs il y a une salle consacrée à Paris, mais effectivement c'est mondial.
Voilà, on va en Afrique, on va en Asie, on va en Amérique du Sud, on va partout dans cette exposition. Donc on a vraiment tenu à ça. Et donc c'est une histoire très faite d'aller-retour, mais pour être très, très rapide, quand même, on peut dire qu'à partir des années 40-50, quelque chose se produit, qui est le moment où les artistes homosexuels prennent en charge leurs propres images. Alors, c'est souvent, d'abord, dans les débuts, en marge de l'industrie, c'est-à-dire dans le cinéma indépendant, le cinéma underground, le cinéma expérimental, le court-métrage, mais s'inventent là des images qui auraient été évidemment impossibles dans le cinéma mainstream. Et donc, petit à petit, ces cinémas-là vont avoir une place plus grande à l'écran. Et puis, l'autre mouvement, et aujourd'hui peut-être pour poursuivre sur cette idée-là, des grands réalisateurs très installés au cœur du système sont eux-mêmes ouvertement homosexuels et font des films sur leur propre homosexualité. Quand Robin Campillo fait 120 battements par minute, c'est à la fois un film très grand public et c'est un film très intime pour lui qui raconte son propre vécu de la lutte contre le sida dans les années 90. Donc ces deux mouvements petit à petit se mélangent, en tout cas dans les cinémas occidentaux. Et donc on a cette évolution-là qui est très importante. Et l'autre évolution, c'est celle que je laissais entendre il y a une seconde en disant que cette exposition elle était mondiale, c'est que la grande révolution, c'est que depuis 20 ans, 30 ans, tous les ans, il y a des pays ou des régions du monde où c'était impossible, ou interdit, ou inimaginable de faire des films sur l'homosexualité et où aujourd'hui, des films se font. Et ça, c'est aussi quelque chose dont on essaie de rendre compte dans l'exposition en montrant cette explosion d'images qui nous arrive de partout dans le monde. Il y avait à Cannes l'année dernière, en 2018, un film kényan, les films africains sont très rares sur l'homosexualité, un film kényan sur une histoire d'amour lesbienne, Rafiki, dont on passe un extrait, dont on a l'affiche. voilà, c'est des choses incroyables. Enfin, c'est oui, cette mondialisation, j'ai envie de dire heureuse pour le coup, des images de l'homosexualité, elle est très, très impressionnante, à mon sens, et des transidentités, parce que prenez par exemple l'Amérique du Sud, le Chili, d'où nous vient un film qui a l'Oscar du meilleur film l'année dernière, qui s'appelle Une femme fantastique, qui est l'histoire d'une femme trans qui est jouée par une actrice trans. C'est très rare là aussi. Donc nous viennent d'un peu partout dans le monde de très bonnes nouvelles de cette nature. Et là, une fois de plus, le cinéma a un rôle, en tout cas sinon précurseur, au moins accompagnateur des évolutions sociétales.
Et de ce point de vue, comment s'est placée la France ? Est-ce qu'elle a été assez tôt alerte à cette question-là et à la mise en avant du cinéma gay ou LGBT ? Je ne sais pas d'ailleurs quel terme il faut employer aujourd'hui. Ou s'il y a un terme à employer, parce que finalement, c'est aussi encore peut-être le mettre dans une case.
Oui, oui. Mais d'ailleurs, l'exposition n'est pas sur le cinéma LGBT. L'exposition, elle est sur les représentations de l'homosexualité et des transidentités dans le cinéma, dans tous les types de cinéma. Donc on ne se contente pas de parler du cinéma LGBT, si on devait, même si tant est que ce cinéma existe.
Voilà, oui, tout à fait. Oui.
Donc voilà, donc là je pense vraiment qu'il faut, c'est pas le sujet. Et par contre, j'ai oublié la question.
La France.
Oui, pardon.
Du coup, si on se recentre un tout petit peu
sur la France. Moi, ce qui m'a toujours frappé, ce que j'ai essayé de développer dans un certain nombre de mes livres, l'homosexualité au cinéma que tu citais, et un autre qui s'appelle Le cinéma français et l'homosexualité, ça a été de montrer qu'il y a une sorte d'exception culturelle française. C'est-à-dire que là où, dans la plupart des pays, il y a toujours eu des périodes où l'homosexualité était peu traitée ou surtout maltraitée, même un pays comme les États-Unis, qui a vécu pendant 30 ans, entre les années 30 et les années 60, sous un code de censure qui interdisait de représenter, en tout cas sous des formes positives, l'homosexualité, la France n'a jamais connu ça. C'est-à-dire qu'on trouve dans le cinéma français de toutes les périodes des films qui montrent des homosexuels, des lesbiennes, de façon tout à fait relativement bienveillante, d'une manière dont je ne connais pas l'équivalent nulle part au monde. Donc oui, il y a une véritable exception culturelle française à ce niveau-là, et tant mieux. Et je crois qu'elle est un peu méconnue, malheureusement.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est peut-être aussi l'idée d'aller voir cette exposition, de voir cette exception culturelle dont tu parles.
Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a pas mal de raisons de venir voir cette exposition.
Entre autres, bien sûr.
Mais je pense qu'effectivement, cette dimension-là de cette exception. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de film homophobe en France, ou de film ou que la situation même législative pour les homosexuels en France a toujours été rose ou idyllique. Évidemment, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement que ça n'a jamais pris les proportions de répression ou d'interdiction qu'on a pu trouver dans d'autres pays. Et que si on fait le compte, pour s'en tenir au cinéma, des films en montrant dans les années 30, 40, 50, des personnages gays, lesbiens à l'écran, les personnages traités de façon positive l'emportent très largement sur les personnages très hostiles, très méchants, très négatifs qu'on peut rencontrer.
Alors Didier, c'est la fin de l'émission là dans quelques instants. Évidemment, on pourrait encore parler des heures de ce beau sujet. Il faut préciser qu'il y a des extraits de chefs-d'œuvre, hein, puisqu'il y a vraiment le cinéma a fait des chefs-d'œuvre, donc à voir ou à revoir ou à découvrir dans cette exposition. On aurait pu d'ailleurs parler aussi d'un point de vue plus artistique, peut-être de l'esthétique aussi qui se dégage de certains films qui ont marqué les esprits, qui ont marqué aussi les consciences collectives. J'avais envie de te demander une toute dernière question avant de se quitter. Quel est pour toi le film peut-être qui t'a vraiment marqué, qui t'a donné envie aussi d'écrire sur ce sujet, d'en faire ta vie un peu ?
Oui, c'est un peu ça. Oui. Il y en a beaucoup. Non, il y a peut-être deux films anglais de la même année, 1987-88, qui sont sortis presque en même temps et qui, moi, ont bouleversé mes 20 ans, qui sont d'un côté My Beautiful Laundrette de Stephen Frears, l'histoire d'amour interracial entre un jeune punk blanc et un jeune héritier pakistanais d'une laverie automatique en plein Londres. C'est un film vraiment merveilleux sur cette période. Et puis, la même année, donc, un film de James Ivory qui s'appelle Maurice, qui est l'histoire presque similaire au début du XXe siècle, l'histoire d'amour d'un jeune homme de très bonne famille qui tombe amoureux d'un garde-chasse et qui pour ça va sacrifier tout son avenir social. Mmh. Et ces deux films assez merveilleux pour ça, qui montrent que l'amour n'a pas de limite ni sociale, ni ethnique, ni culturelle, et que avec les amours homosexuels, on largement le droit d'exister dans tous les milieux, sous tous les cieux.
Merci beaucoup Didier d'être venu ici dans le studio d'Art District. Donc je rappelle que tu es co-commissaire de cette exposition, donc qu'il faut aller voir.
Je peux juste te dire encore une chose, cette exposition, j'ai l'impression qu'on en a parlé comme si elle était très sérieuse, elle l'est, mais je crois qu'on a créé des espaces assez ludiques et assez drôles.
Oui.
Au sein de cette exposition qui permettent aussi de
bien s'évader. Bien sûr, il y a de la joie, il y a de l'art, il y a de l'imagination, il y a de la comédie, justement, on en a parlé. Et puis, il y a même aussi des salles un peu plus obscures, on va dire, pour les adultes, dont une qui est d'ailleurs interdite au moins de 16 ans. Donc, si vous avez des enfants, faudra la contourner.
Voilà, on peut passer à côté.
On peut passer à côté. Mais effectivement, oui, c'est comme on le disait au début, c'est aussi une exposition sur le cinéma et sur toute la poésie et la passion que peut véhiculer justement les images du cinéma et tous ces grands réalisateurs. Donc, ça s'appelle Chant d'amour. D'ailleurs, le titre l'exprime bien. Je crois que c'est un titre qui est une référence.
C'est une référence au seul film tourné par Jean Genet en 1951.
Voilà, donc Chant d'amour. 100 ans de cinéma arc-en-ciel à l'Hôtel de Ville de Paris, c'est une entrée gratuite et c'est donc jusqu'au 28 septembre prochain. Et je tiens également à préciser qu'il y a une petite programmation parallèle qui est organisée à la Cinémathèque française qui s'appelle Révolte sexuelle, révolution visuelle jusqu'au 11 juillet. Donc il ne faut pas trop tarder si vous voulez aller découvrir cette programmation qui projette plusieurs films sur cette thématique.
Notamment
aussi.
Beaucoup de films expérimentaux, beaucoup de films très militants. C'est une belle programmation et très originale.
C'est un beau complément à l'exposition. Didier, allez, on va se quitter en musique. C'est la tradition dans cette émission et je te laisse peut-être annoncer le titre qui va suivre.
Alors c'est une chanson que vous entendrez dans l'exposition si vous venez, dans la boucle finale, puisqu'il y a un écran qui montre pendant 15 minutes des films, des comédies ou des films où il y a de la musique. Et là c'est un extrait d'un film qui s'appelle Pride, qui est un film de 2014-15, je ne sais plus, qui raconte le combat commun de mineurs anglais contre Margaret Thatcher et d'homosexuels qui vont les soutenir. Une histoire vraie porté à l'écran. Et à l'intérieur de ce film, il y a une chanson de Jimmy Somerville, grand activiste gay britannique, grand musicien qui a accompagné beaucoup des homosexuels dans ces années-là, notamment dans la lutte contre le sida. Et cette chanson s'appelle Why. Et donc voilà, j'avais envie de terminer avec cet extrait.
Super, merci beaucoup.
Merci
Didier, et à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.